site internet www.rfi.fr.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 16 de janvier, nous nous retrouvons pour revivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité qui est cette semaine le directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum. Une semaine d'actualité, après le flash nous irons évidemment en Afrique, rendez-vous aussi avec vos messages et dans un instant direction la Turquie. Mais partons sans tarder aux États-Unis où mardi Barack Obama a prononcé son dernier discours sur l'état de l'Union. Nous sommes toujours les plus forts, a-t-il dit en substance. Correspondance d'Anne-Marie Capomaccio.
Le seul regret de Barack Obama est de n'avoir pas réussi à construire un pont entre démocrates et républicains. La rancœur et la suspicion vont de mal en pis, a-t-il reconnu, alors que la campagne électorale exacerbe encore un peu plus, si cela est possible, les divisions entre les deux grands partis. Des regrets exprimés publiquement, certes, mais le président des États-Unis, en dépeignant l'Amérique idéale, l'Amérique qui augmente les salaires modestes et intègre les migrants, a clairement engagé ses concitoyens à choisir, encore une fois, le camp démocrate lors de la présidentielle, à choisir, je le cite, la tolérance contre la stigmatisation.
Quand un homme politique insulte les musulmans, qu'ils soient des étrangers ou nos concitoyens, cela ne rend pas le pays plus sûr, cela nous affaiblit aux yeux du monde, cela nous empêche d'atteindre nos objectifs. C'est une trahison de ce que nous sommes, une trahison de notre pays.
Le candidat républicain Donald Trump est en tête dans les sondages et il s'est certainement reconnu. Barack Obama s'en défend, mais il s'engage dans cette campagne car l'élection d'un candidat démocrate après un président démocrate, cela ne s'est pas produit depuis les années 40. Et pour Barack Obama, ce serait sans aucun doute l'espoir de voir les projets en cours se concrétiser comme une touche finale à son bilan.
Revenons tout de suite sur la cérémonie d'hommage aux 147 victimes du terrorisme en France, à Paris, l'année dernière. Elle avait lieu, cette cérémonie, dimanche dernier, place de la République, dans la capitale, bien sûr. Nous y reviendrons aussi après le flash, mais écoutez tout de suite cette femme, une franco-brésilienne, qui a quitté quelques heures la Normandie, où elle habite, afin de participer à cette journée.
Ça faisait longtemps que je voulais venir, et ce matin, je ne pouvais plus rester devant mon poste de télévision. Il fallait absolument que je vienne. On a envie d'être avec tous ceux qui sont partis. On a envie de rester aussi pour se battre pour eux aussi.
Propos recueillis par Clara Wright.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce magazine qui résume l'actualité de la semaine, ou essaie de le faire en tout cas. Vous êtes essayiste, journaliste, directeur du Monde des Livres, du prestigieux Monde des Livres, et vous venez d'écrire un silence religieux, la gauche face au djihadisme, un essai fort intéressant et qui suscite un débat, qui va susciter j'espère un débat, où vous dites que la gauche finalement n'a jamais vraiment pris au sérieux la religion, son impact.
Oui, en tout cas qu'elle hérite d'une longue, longue tradition de déni, de refoulement du religieux en tant qu'il est une force autonome. Hein. C'est un peu le point pour moi important du livre, c'est que évidemment, d'ailleurs, on entendait là Obama qui faisait allusion à la question sociale, salaire modeste. Ça, il n'est pas du tout question pour moi dans ce livre qui est sur la capacité de la gauche à comprendre ce qui se passe avec le djihadisme. Il n'est pas du tout question d'exclure les causalités économiques, sociales, etc. Il est juste question de dire, bah, il y a aussi une causalité religieuse, ça existe, il y a une force autonome. Pendant très très longtemps, cette force autonome, elle était évidente, elle a régné sur nos consciences en Occident aussi pendant des siècles. On pouvait pas penser l'existence quotidienne, ni la politique, le fondement, le pouvoir, etc. sans remettre à une forme de transcendance ou de Dieu. Et aujourd'hui, tout se passe comme si on avait un peu oublié tout ça, et notamment à gauche, effectivement, il y a une longue, longue histoire de déni et de refoulement, d'occultation, d'évacuation du religieux comme force et comme puissance propre.
Et vous dites, Jean Birnbaum, que la gauche gauche, en quelque sorte, ne voit pas de politique dans la religion, si je puis dire.
Oui, comme si, effectivement, là, partout où il y a de la religion, elle voit pas de politique. Partout où il y a de la politique, elle évacue le religieux. Alors même que ce qu'on a appelé très longtemps et ce qu'on appelle encore aujourd'hui le théologico-politique, avec un trait d'union, montre bien que il y a eu pendant longtemps quelque chose d'absolument indissociable entre les deux. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que jusqu'à il y a pas si longtemps, la plupart des grands intellectuels français qui rayonnaient à l'étranger, je pense à la génération qu'on a appelée 68, hein, des gens comme Jacques Derrida ou Michel Foucault, pour des gens comme ça, qui sont morts il y a pas si longtemps, hein, en tout cas pour Derrida, c'est le début des années 2000, c'est 2004, pour lui c'était évident, pour un philosophe comme lui, c'était évident qu'on pouvait pas penser, il était pas croyant, mais pour lui c'était évident qu'on pouvait pas penser le politique, l'économique, le juridique, sans penser aussi le religieux, on pouvait pas déconstruire l'un sans déconstruire l'autre, donc sans avoir un rapport spécifiquement personnel ou de foi à Dieu, il y avait comme une évidence qu'il fallait penser les deux ensemble, et paradoxalement, il a vécu le début de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mais paradoxalement, cette génération 68 pensait les deux ensemble, le politique et le religieux, et n'avait pas affaire à ce qu'on vit nous aujourd'hui, c'est-à-dire un retour de flamme extrêmement puissant et violent du théologico-politique. Et maintenant que nous vivons tout cela, eh bien, nous avons en fait une génération d'intellectuels qui est souvent tout à fait désarmée pour penser la chose.
Alors, on va reparler évidemment de Michel Foucault en Iran tout à l'heure ou dans la deuxième partie de l'émission. Mais cela donne des propos pour lier votre livre à l'actualité. C'est un livre dans l'actualité, évidemment, des propos du genre du côté du gouvernement ou du président de la République. Ces attentats islamistes revendiqués par l'organisation de l'État islamique en France à Paris l'année dernière n'ont rien à voir avec l'islam.
Oui. Ça, c'est un peu le point de départ du livre, effectivement. Au lendemain des attentats, c'était cette espèce de discours martelé au sommet de l'État. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam. Sur les plateaux de télé, dans les studios de radio aussi, ça a été beaucoup dit. Et on peut évidemment penser que ce discours a d'abord des intentions tout à fait louables, qui est d'éviter l'amalgame mortifère entre islam d'un côté et terrorisme de l'autre. C'est évidemment quelque chose qu'il faut en permanence répéter, avec toute la violence produite par cet amalgame. Mais je pense, moi, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que quand le président de la République, comme tout un tas d'intellectuels martèlent en permanence que tout ça n'a rien à voir avec la religion, alors même que les gens qui commettent ces attentats passent leur temps à se réclamer de Dieu, récitent des versets coraniques, s'en remettent à des révélations prophétiques, citent des grands savants, des théologiens, ils ne parlent que d'anges protecteurs, de révélations prophétiques, de perspectives eschatologiques ou apocalyptiques. Je pense qu'il est difficile d'évacuer tout ça d'un revers de la main, et il faut quand même, pour comprendre ce qui se passe, prendre au sérieux ce qui est dit.
Alors vous écrivez dans votre livre, la gauche n'envisage plus la possibilité de cette puissance qui domina si longtemps l'Occident lui-même, le théologico-politique.
Oui. Ben oui, parce que effectivement, c'est quand même sidérant. Là, pour le coup, des gens comme Marcel Gauchet ou d'autres en parlent très bien. Oui. C'est-à-dire que, de fait, quand même, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de en Occident aussi. Et on y reviendra puisqu'on parlera de Foucault. Mais Foucault, quand il voit la puissance de la religion en Iran, au moment de la révolution islamique en Iran, il dit bon, ben, j'entends des Français qui rient, mais ils ont tort de rire. On risque de passer du rire aux larmes, et ils ont tort, d'autant plus que en Occident aussi, pendant très 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 longtemps, le politique était indissociable du religieux et que le religieux avait sa puissance propre qui était une puissance à nul autre pareil.
Alors Jean, partons pour la Turquie, endeuillée mardi par un attentat dans le cœur touristique d'Istanbul. Un attentat perpétré par l'organisation de l'État islamique, selon le gouvernement turc. Il est survenu cet attentat dans un contexte géopolitique très particulier. Sami Boukhalifa.
Ni ennemi, ni ami des djihadistes, la Turquie a longtemps fermé les yeux et ouvert sa frontière aux combattants du groupe État islamique pour faciliter leur migration vers le califat autoproclamé. Durant les premières années de la guerre en Syrie, la position turque est claire, faire tomber le régime de Bachar al-Assad coûte que coûte. Obsédé par cet objectif, le président turc Recep Tayyip Erdogan joue un jeu dangereux, allant même jusqu'à soutenir les organisations armées hostiles à Damas. En spectateur, les responsables turcs laissent grandir le monstre djihadiste au seuil de leur porte, mais mauvais calcul, leur stratégie se retourne contre eux. En 2015, leur réveil est brutal, ils prennent conscience d'avoir sur leur territoire plus de 2 millions de réfugiés syriens et potentiellement des cellules djihadistes dormantes. Mais il est trop tard, en juillet dernier, la Turquie est frappée par un premier attentat dans la ville de Suruç, près de la frontière avec la Syrie. En octobre, la capitale, Ankara, est visée par une attaque suicide, elle fait plus de 100 victimes. Et ce mardi, le cœur historique et touristique d'Istanbul est touché à son tour.
L'armée turque a pilonné des positions de l'organisation de l'État islamique après cet cet attentat. D'autre part, 6 personnes ont été tuées et 39 blessées jeudi dans le sud-est de la Turquie, dans un attentat à la voiture piégée attribué aux rebelles kurdes. Je rappelle aussi que des attentats suicides revendiqués par le groupe djihadiste État islamique, encore lui, ont semé le chaos jeudi à Jakarta, où 5 terroristes inspirés, semble-t-il, par les attaques de Paris, ont tué par balle 2 personnes, dont un Canadien, et détruit un café Starbucks proche d'un centre commercial. Les assaillants sont morts dans cette attaque. Suite d'une semaine d'actualité, Jean Birnbaum, en Syrie, où l'armée du régime a reconquis une ville clé pour Damas, la prise mardi de Salma, quartier général des rebelles islamistes, et du front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda dans les montagnes de Latakia, au nord-ouest du pays, marque évidemment un réel succès pour le régime, car la ville lui échappait depuis 2012. Correspondance régionale de Paul Ralifet à Beyrouth.
La reprise de Salma par les troupes syriennes est un enjeu majeur pour la sécurisation de la province de Latakia, région natale et fief de Bachar el-Assad. Cela explique les moyens déployés par le régime et ses alliés pour y parvenir. Un corps d'armée a été spécifiquement créé pour les besoins de cette bataille. Il est composé d'unités spécialisées dans les combats de montagne et dispose d'armements sophistiqués. Ces troupes sont appuyées par la milice supplétive des forces de défense nationale et de combattants du Hezbollah libanais. La puissance de feu utilisée montre la détermination du régime et de ses alliés. Lors du dernier assaut qui a débuté lundi, l'aviation russe a mené près de 120 raids sur les collines entourant Salma, considérée comme la capitale des rebelles dans le nord-ouest syrien. Dans le même temps, l'artillerie et les lance-roquettes multitubes déversaient un feu d'enfer. Avec la reconquête de Salma, le régime syrien est en passe de chasser les rebelles de toute la province de Latakia. Il lui reste à reprendre la région de Rabia, non loin de la frontière avec la Turquie, pour parvenir à cet objectif. Cette avancée donne à l'armée syrienne un avantage pour intensifier son offensive dans le nord de la Syrie, avec pour prochaine cible la ville stratégique de Jisr-e-Shurur, frontalière de la Turquie.
Une semaine d'actualité.
Avant de vous retrouver, Jean Birnbaum, partons pour l'Allemagne. Après le choc des incidents, des viols notamment dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, une ville qui s'était fortement engagée pour les réfugiés et qui constate que certains d'entre eux sont les auteurs de ces actes. Correspondance de Pascal Thibault, lundi.
En fin de semaine encore, le nombre de plaintes après les violences de la Saint-Sylvestre se montait à 170 à Cologne. Entre-temps, leur nombre a triplé et dépasse la barre symbolique des 500. 40% d'entre elles concernent des agressions sexuelles. 19 personnes sont considérées comme suspectes d'après la police de Cologne, qui a également arrêté un Marocain soupçonné de vol de portable le soir de la Saint-Sylvestre. Des violences similaires sont confirmées dans d'autres villes allemandes, où comme à Cologne, des jeunes gens majoritairement d'origine étrangère ont pratiqué des attouchements sexuels sur des femmes avant de les voler. Le ministre de la Justice a confirmé dimanche ses déclarations antérieures sur l'existence, d'après lui, de bandes organisées à l'origine de ces agressions de grande ampleur. La presse allemande estime également que des groupes se sont donné rendez-vous pour se retrouver à la gare de Cologne via des réseaux sociaux. Les responsables politiques durcissent le ton face à ces violences. La CDU et Angela Merkel plaident pour des règles plus strictes pour permettre d'expulser plus facilement des réfugiés condamnés même à de faibles peines. Le ministre de l'Intérieur veut renforcer la présence policière dans les rues et accroître la vidéosurveillance.
Suite d'une semaine d'actualité avec ce concentré d'horreur, vous le constatiez, comme hélas chaque semaine, Jean Birnbaum, cette attaque à Jakarta est un des temps forts, si je puis dire, de la semaine, avec, on le dit, à peu près 500 djihadistes indonésiens sur, il faut le rappeler, 240 millions d'habitants. Rappelez aussi que l'Indonésie est le premier pays musulman du monde. Cela m'incite à parler là de Michel Foucault, qui dès 1978, l'arrivée du nouveau pouvoir des religieux, des mollahs en Iran, dès 1978, il est allé, non pas pour un livre, mais pour des articles en Iran, et là, il s'est passé quelque chose sur le plan de la pensée, le plan de la pensée de la religion, justement.
Oui, vous le dites très bien, c'est-à-dire que, effectivement, il arrive, c'est quand même un grand intellectuel identifié à gauche, il y va pour un journal, il est lui-même pas du tout religieux, il commence à enquêter sur les raisons de ce soulèvement, qui n'est pas encore vraiment une révolution, et puis donc, évidemment, il interroge des étudiants, des ouvriers, etc., et puis il s'interroge lui-même sur les causes économiques, sociales, de tout ça, et puis très vite, il voit qu'il y a quelque chose d'autre, parce qu'il est à la fois, il est pas formé tout ça, mais il est disponible à l'événement et à sa nouveauté, il est ouvert aux choses, et donc il voit qu'il y a des causalités économiques, des causalités sociales, et puis qu'il y a quand même une puissance incroyable du religieux en tant que tel, et surtout il constate ce fait absolument majeur et central qui est que finalement tous les militants là-bas qui se réclament des droits de l'homme ou de la démocratie, tous ceux d'un côté, tous ceux qui se réclament du marxisme, du socialisme de l'autre, sont balayés très vite par les militants qui, eux, se réclament du messianisme, du religieux, etc. Et donc, il voit cette puissance incroyable du religieux. Il parle de poudrière de l'islam. Il dit que c'est absolument incroyable, que ça va être un enjeu majeur dans les années qui viennent. Et donc, il n'écarte pas les autres causalités. Mais il voit qu'il y a une autonomie. Et quand on entend, là, tous les reportages que vous venez de passer un peu dans différents endroits, là, la Turquie, la Syrie, on voit bien ce retour, cette insistance du religieux. Et donc, même les journaux, les médias, les intellectuels qui ont tendance à refouler ça en permanence sont maintenant obligés d'utiliser le lexique de la religion dans un raffinement de plus en plus fou, et on voit bien que s'il y a bien un point commun entre tous ces faits, à chaque fois, ça n'est pas que les gens en question qui commettent les attentats viennent du même milieu social ou qui viennent du même pays, ou c'est qu'en fait, à chaque fois quand même, ils se réclament de quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, puisqu'en fait, ils commettent ces attentats au nom de Dieu.
Et vous écrivez, Jean Birnbaum, dans ce livre, Michel Foucault souligne que l'ardeur qui meut alors les rebelles iraniens est indissociablement politique et religieuse. Les deux, toujours, sont liés.
Les deux, toujours, mais c'est la seule, c'est le nouage des deux qui est intéressant, si vous voulez. Moi, mon but n'est pas du tout de dire que tout est religieux. Le but est d'articuler les deux. C'est toujours ce grand problème de la laïcité chez nous, ou de la laïcité en général. C'est évidemment de tenir bon sur une séparation des deux, mais pour bien séparer les deux, c'est comme dans un couple en général, il vaut mieux respecter aussi les deux et donner une place à chacun. Et donc, le problème, c'est que très souvent, on a tendance à refouler complètement l'aspect religieux. Pendant très longtemps, pendant des siècles, le religieux a absorbé le politique. Aujourd'hui, il y a plutôt tendance à penser que dès que quelque chose est politique, il n'y a plus de religieux. Et c'est vrai que la question, c'est celle de l'autonomie. Vous voyez, il y a une autre comparaison là beaucoup plus périlleuse, c'est celle du nazisme. Vous savez, il y a un grand livre de François Furet, l'historien, où il disait, où il y a cette comparaison, où il disait, bon, alors on dit toujours, la gauche dit toujours, les nazis ont été financés par le grand capital allemand. Et c'est un truc très banal, ça a été dit pendant des années, etc. Et c'est largement vrai. Et il disait, mais en fait, à la limite, on s'en moque, parce que, bien sûr, les nazis ont été financés par le grand capital allemand, mais ce qui est intéressant, c'est l'autonomie qu'ils ont fini par prendre à l'égard de ces gens qui les finançaient. Bah, l'État islamique, franchement, alors, toutes choses étant égales par ailleurs, les phénomènes sont très différents. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit, voilà, socialement, ils viennent de là, etc. Ils sont manipulés par la Turquie, ils sont manipulés par l'Arabie Saoudite, ils ont été financés par un tel, ils ont été... Mais ils ont acquis une autonomie. Et cette autonomie, c'est ça qui est intéressant. Et elle n'est pas, à nouveau, elle ne se réclame pas de n'importe quoi, cette autonomie.
François Furet, Jean Birnbaum, qui a écrit, vous nous le rappelez, je le cite, « Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons ». Alors ça, c'était aussi une constatation très importante. C'est-à-dire, plus de religion, plus de perspective.
Plus de perspective, plus d'au-delà.
Plus de révolution,
plus d'au-delà. Plus d'au-delà du monde présent, parce que finalement, ce que la gauche a toujours cherché, c'est un au-delà du monde présent, un au-delà aussi, une espérance de rompre avec l'état du monde tel qu'il est, dans ses injustices, dans ses inégalités, etc. Et c'est vrai que ces mots que vous avez cités, vous avez raison de les citer, de François Furet, ont représenté un peu le cauchemar de toute une génération de militants de gauche, parce que c'est une manière de dire, c'était après la chute du mur de Berlin, c'était, en gros, bah voilà, maintenant, il faut aussi faire, on va vivre dans le monde où on est, dans lequel on vit, puis voilà, il n'y aura pas autre chose. Et ce qui est fou, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a bien une puissance politique qui propose quelque chose de très radicalement différent, mais cette puissance politique ne se réclame pas de l'émancipation sociale, comme c'était le cas de la gauche, elle se réclame plutôt d'un messianisme radical.
C'est ce que vous précisez dans la conclusion de votre livre, qui est vraiment passionnant, Jean Birnbaum. Vous dites qu'il n'y a plus de révolution, alors la religion, peu à peu, prend la place.
Voilà.
Et offre des perspectives.
Voilà. C'est une espèce de mouvement de balancier qu'on trouvait d'ailleurs très bien chez Marx, qui lui, contrairement à certains de ses héritiers, prenait vraiment au sérieux la question du religieux. J'y reviens, j'ai un long chapitre là-dessus, parce que vraiment, il a pas cessé. Tout a commencé par là, pour lui. C'est-à-dire qu'il a commencé par buter sur ce problème. Il a jamais cessé de revenir, de s'y coller et de s'y casser les dents, finalement. Et chez Marx, il y a cette idée comme ça qu'il faut prendre d'autant plus au sérieux le religieux qu'en fait, le religieux, bien sûr, prend immédiatement la place de l'espérance sociale quand cette espérance est déçue. Et donc, de fait, là, il y a quelque chose d'important à jouer avec cette question qui, pour moi, est centrale et qui n'a pas tellement l'air de travailler la gauche, qu'elle soit réformiste ou révolutionnaire, c'est pourquoi, aujourd'hui, la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à mourir à l'autre bout du monde, eh bien, ça n'est pas la cause de la révolution sociale, c'est celle du djihadisme sans frontières.
Alors, Jean, on va reparler de cette grave question dans la deuxième partie. On va marquer une pause, Jean Birnbaum, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Allez, à tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité Jean Birnbaum, le directeur du Monde des Livres, auteur d'un essai passionnant, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous avec quelques-uns de vos messages.
Une semaine d'actualité.
Et arrêtons-nous en France d'abord, revenons à la cérémonie officielle d'hommage aux victimes des attentats de Paris l'année dernière. C'était dimanche dernier, place de la République, reportage de Clara Wright.
Sous le regard de la statue de Marianne, en 30 minutes de cérémonie, c'est tout l'héritage des Lumières qui est invoqué, avec un texte de Victor Hugo, mais aussi des chants comme Le Temps des Cerises, interprété par le chœur de l'armée française. Un chêne de 10 mètres a également été planté, autant de symboles choisis par les autorités pour rassurer et unir les Français. Ils sont seulement 5000 à assister à la cérémonie officielle, mais ils sont émus, comme Gilles Ball, 64 ans.
Je me sens bien quand je viens ici, parce que je me sens proche des autres, je sens que je partage quelque chose. Et des jours comme aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine ferveur, mais les choses peuvent retomber très vite. Il faut que ces souvenirs, eh bien, ils soient vivifiés, il faut que ça soit fertile, il faut ranimer la flamme, si j'ose dire.
Mais certains ont préféré éviter la cérémonie et rallumer la flamme loin des discours officiels.
Indépendamment des attentats, il y a eu un autre événement le 16 janvier dernier. Il y a eu un rassemblement spontané le soir, ici. Et ce rassemblement spontané, il n'était pas organisé par les politiques, c'était le peuple de Paris. Je suis encore ému.
C'est ce peuple de Paris, cette spontanéité qui remplit au fil des heures la place de la République. Rénal, la cinquantaine, est passé deux fois aujourd'hui.
À chaque fois que je passe vers la République, je viens. Et là, on a remis des bougies. On vient les rallumer, on en met. Et puis voilà, le plus longtemps possible.
Lorsque la statue de Marianne s'illumine de bleu, de blanc et de rouge, marquant la fin de cette journée de commémoration, Rénal et une foule de petites mains désormais nombreuses s'activent encore. Clara Wright, place de la République, RFI. Sept jours en France.
L'adolescent auteur de l'agression d'un enseignant juif lundi à Marseille a été mis en examen mercredi par un juge antiterroriste. Ce lycéen s'est jeté, rappelons-le, sur le professeur avec une machette et l'a blessé légèrement, Simon Rosé.
Lors de son interpellation, il avait déclaré avoir honte, non pas de son acte, mais au contraire de ne pas avoir tué sa victime, Benjamin Amselem, visé parce que juif. Ce turc d'origine kurde va fêter dans quelques jours ses 16 ans, mis en examen pour un acte qu'il revendique au nom du groupe État islamique. Il avait fait part aux enquêteurs de sa volonté de se rendre en Syrie. C'est la section antiterroriste de la police nationale qui est en charge de l'enquête, même s'il a assuré lors de sa garde à vue avoir agi seul. Cette affaire met en tout cas une nouvelle fois sur le devant de la scène les cas d'auto-radicalisation. Décrit par ses proches comme bon élève et calme, personne dans son entourage n'avait envisagé qu'il puisse commettre un tel acte. De son propre aveu, le jeune homme assure avoir découvert le groupe État islamique sur Internet et l'analyse de son téléphone a révélé qu'il avait consulté des sites djihadistes. Âgé de moins de 16 ans, il peut encourir une peine allant jusqu'à 20 ans de prison. Au total, en France, ce sont 13 mineurs qui sont mis en examen dans des dossiers liés au djihadisme. 3 d'entre eux sont en détention provisoire, les 10 autres sont sous contrôle judiciaire.
Restons en France avec la sévérité inhabituelle de la justice à l'encontre de 8 ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord, salariés qui avaient séquestré 2 cadres lors de manifestations contre un plan de licenciement. Clémence Denavy.
De la prison ferme pour un patron séquestré, c'est totalement inédit. Les débordements, séquestrations, menaces de sabotage, les violences sont certes condamnées et les peines encourues sont lourdes d'ailleurs. La séquestration est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende si elle dure moins d'une semaine. Mais dans les faits, d'ordinaire, ces débordements sont sanctionnés par des amendes. Les tribunaux prennent en compte le climat social, le stress et le désespoir de salariés confrontés à une fermeture, une restructuration et se montrent plus indulgents. Ce fut le cas pour les 12 postiers de Nanterre qui, en 2010 avaient occupé leur entreprise et séquestré plusieurs cadres. 3 avaient été condamnés à des amendes. Le cas aussi pour les ouvriers de New Fabrice à Châtellerault qui avaient menacé eux de faire sauter leurs locaux avec des bonbonnes de gaz. Alors s'agit-il ici d'une sanction pour l'exemple après les débordements chez Air France? Lors du procès des Goodyear à Amiens le 24 novembre dernier, le procureur avait requis 2 ans de prison dont un an ferme et expliqué qu'il ne pouvait tolérer dans un état de droit, même dans un contexte social difficile, que les salariés se rendent justice eux-mêmes. Le banc des plaignants était resté vide, Goodyear ayant retiré sa plainte en application de l'accord de fin de conflit.
8 ouvriers Goodyear innocents condamnés à de la prison ferme pour avoir défendu leur emploi. 1143 chômeurs, les coupables courent toujours, a de son côté tweeté mardi le porte-voix du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes toujours en votre compagnie, Jean Bienbaume. Vous avez écouté tous ces reportages avec beaucoup d'attention depuis le début.
Eh oui.
Religieusement. Vous confirmez, religieusement, évidemment. Et vous avez, on va revenir à votre livre, Un silence religieux, qui pose plein de questions et qui ouvre un débat. Et il y a des parties, des chapitres qui m'ont particulièrement intéressé, comme ce chapitre où vous comparez l'engagement des brigadistes pendant la guerre d'Espagne et l'engagement des djihadistes aujourd'hui. Et vous écrivez, brigadistes et djihadistes partagent la certitude de mener un combat décisif qui engage le destin de l'humanité.
Ben oui,
j'ai trouvé cette comparaison très intéressante.
C'est une comparaison qui peut choquer en partie, mais en fait, toute mon idée est d'exhiber au maximum les différences qui sont radicales, évidemment, entre les deux engagements, mais d'abord de montrer les points communs. Et effectivement, dans les points communs, il y a cette conviction que vous donnez, c'est-à-dire que effectivement, par exemple, c'était l'idée, pour les uns comme les autres, c'est l'idée qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour sauver ses frères, hein, parce que c'était les frères ouvriers, pour un jeune militant de la CGT, par exemple, qui est un ancêtre des Goodyear. D'ailleurs, c'est lié parce que quelque part, si vous voulez, cette espèce de dérédiction d'affaiblissement du mouvement ouvrier qui prend des coups aussi violents, et je trouve c'est assez emblématique cette condamnation. Donc, on voit bien que le mouvement ouvrier est affaibli, on peut lui donner des coups très violents, et dans ce cadre-là, il peut y avoir autre chose qui se déploie aussi, évidemment. Et donc, pour un jeune ouvrier qui part en 1936 en Espagne, il y a l'idée qu'il faut aller secourir ses frères qui sont en train de se faire massacrer, que la démocratie française ne fait rien, que en face de des ouvriers espagnols, il y a évidemment les armées coalisées de Mussolini, de Franco, des fascistes d'Hitler, etc. Donc, et que là-bas se joue effectivement le destin de l'humanité, parce que c'est une sorte de laboratoire, et d'ailleurs ça l'a été, une sorte de il y avait cette conviction, un laboratoire de ce qui va advenir de pire. Et donc, ça va devenir la Seconde Guerre mondiale. Et donc, un laboratoire d'une sorte d'apocalypse à venir. Et donc, il faut se mobiliser pour sauver ses frères et pour, à travers eux, sauver l'humanité tout entière menacée par le fascisme. Il faut bien voir que dans la tête des jeunes djihadistes ou des jeunes qui s'en vont là-bas, ils n'arrêtent pas de dire « Nous allons sauver nos frères musulmans qui se font massacrer. » Il y a eu tous ces massacres de Bachar al-Assad, etc. Et il y a l'idée que c'est là-bas que tout se joue. Alors là, dans une vision totalement eschatologique, c'est toute cette mythologie du Cham, etc. Vous savez, cette espèce de zone du Levant où tout le monde, où le combat final avec les mécréants va se jouer, où tout d'un coup le royaume de Dieu pourrait s'instaurer, etc. Mais en tout cas, il y a une configuration mentale comme ça qui est assez proche. Et on voit bien qu'il y a ce jeu de bascule dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de brigade internationale. Le mouvement ouvrier tel qu'il est n'a plus du tout de combat qui fait que des jeunes vont le rejoindre pour aller se battre à l'autre bout du monde dans un cadre internationaliste. Alors que le mouvement djihadiste, lui, avec des différences immenses, on va peut-être y revenir, eh bien, est capable de mobiliser toute une jeunesse révoltée qui dit se battre pour la justice et qui est porteuse, en fait, qui est animée, non pas par une pure haine. C'est impossible, on ne peut pas imaginer que tous ces jeunes se lèvent comme ça par haine. Évidemment qu'il y a là, peut-être évidemment un mauvais escient, etc., avec beaucoup d'illusions, mais il y a d'abord une espérance radicale, très violente, qui finit dans le sang, mais qui est d'abord une espérance, et non pas juste, évidemment, de la haine ou un appétit de destruction.
Et rappelez effectivement que les brigadistes luttaient pour la démocratie contre Franco, et que les djihadistes, eux, reviennent en France, pour certains d'entre eux, pour tuer. C'est la différence sensible.
Il y a une différence totale, sauf que si vous voulez, disons que le militant révolutionnaire qui part soutenir les révolutionnaires espagnols contre Franco, il est aussi parfois dans une perspective révolutionnaire où il pense que la démocratie bourgeoise, entre guillemets, doit être détruite et que ce qu'il faut, c'est instaurer le communisme sans frontières, etc. Et donc, voilà, il faut bien voir que cette critique de l'hypocrisie parlementaire, de la démocratie, etc., et de ces mensonges, ces illusions, etc., je mets tous les guillemets qu'il faut, elle est présente aussi chez les jeunes djihadistes, qui passent leur temps à dénoncer les élections, etc., et qui, en fait, sont dans un discours aujourd'hui d'extrême radicalité à l'égard du monde tel qu'il est, et qui passent leur temps à dire « Nous, ce qui nous motive, c'est une quête de justice ». Donc, évidemment que les résultats sont extrêmement violents et que les différences sont radicales, puisque une des principales différences, c'est le rapport à la politique, à l'histoire. Les jeunes brigadistes voulaient porter la politique à incandescence pour faire entrer l'humanité dans sa vraie histoire, la faire sortir de sa préhistoire où il y avait des inégalités, de la souffrance, des injustices, etc. Les djihadistes, eux, veulent tuer l'histoire et se débarrasser de l'histoire. Et c'est donc aussi un rapport à la vie, puisque toutes les chansons du mouvement ouvrier, les chansons justement des révolutionnaires espagnols, etc., célèbrent la vie, l'amour, la transmission, les enfants, etc. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui célèbrent la mort et qui donc, quelque part, sont en symétrie avec les forces franquistes qui, elles aussi, comme vous le savez, disaient « Vive la mort ».
Alors, en tout cas, de ce chapitre donne à réfléchir comme un autre chapitre, qui est le chapitre 2, il me semble, de votre livre, intitulé « Génération FLN, retour sur un non-dit fondateur ». Alors ça, j'ai trouvé que c'était aussi assez gonflé de votre part, hein. Je pense que certains ne vont pas apprécier, sur la dimension religieuse de la guerre d'indépendance algérienne, de l'indépendance de l'Algérie.
Oui. Bah oui, mais c'est quelque chose d'absolument central. C'est moi, en plus, je suis né beaucoup plus tard, mais disons que familialement, etc., c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi. On m'a donné à lire La question d'Henri Alec sur la torture, Le grand témoignage sur la torture. J'avais 14 ans. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup imprégné. Et donc, c'est vrai qu'en travaillant là-dessus, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun bilan qui a été fait de l'expérience de la gauche française qui a soutenu le FLN, d'une partie de la gauche. Il y a toute une partie qui n'a pas du tout soutenu, mais il y a ce qu'on appelait les porteurs de valises, ensuite les pieds rouges, c'est-à-dire ceux qui sont restés en Algérie après l'indépendance pour essayer de construire le socialisme là-bas, parce que c'était ça quand même l'espoir et l'horizon, et qui ont tous absolument fait l'impasse, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir la dimension profondément religieuse, le fait que l'islam était central dans le discours, dans les fondements du FLN, c'est-à-dire le mouvement nationaliste algérien. Parfois, ces militants français ont serré les dents et n'ont rien dit, même quand ils s'en sont aperçus, ont continué de ne rien dire pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. C'était déjà l'argument à l'époque pour ne pas souiller la cause de l'anticolonialisme, etc., etc. Et comme ça a été très central finalement, que très peu de gens ont travaillé sur cette question, eh bien, aujourd'hui, on en a hérité de ce déni, puisque la génération 68, celle qui a tellement pesé, qui pèse encore beaucoup sur notre univers, notre imaginaire politique, intellectuel, etc., dans l'édition, dans les médias, en politique, eh bien, cette génération est très largement une génération FLN, c'est-à-dire une génération qui est née à la politique dans l'indignation à l'égard de la torture en Algérie, etc.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique, Jean Birnbaum, avec en plus, on l'espère, une bonne nouvelle qui se confirmera. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a en effet officiellement annoncé jeudi la fin de la propagation d'Ebola au Libéria et l'arrêt, je cite, de toutes les chaînes connues de transmission en Afrique de l'Ouest, ravagée par la plus grave épidémie depuis l'identification du virus il y a une quarantaine d'années, 40 ans, grâce notamment aux efforts de l'Europe à Bruxelles jeudi, Johanna Holstein.
La bataille contre la maladie a été gagnée, s'est félicité le coordinateur européen pour la lutte contre Ebola, le grec Christos Stylianides, notamment grâce aux efforts de l'Europe, a-t-il poursuivi. Près de 2 milliards d'euros ont été débloqués en aide humanitaire, en expertise technique pour la recherche de traitements. L'UE a envoyé du matériel médical, des laboratoires mobiles, des épidémiologistes dans les trois pays les plus affectés. Mais il faut poursuivre le combat, insiste-t-on ici. Le risque de réinfection existe. Il faut également tirer les leçons de la gestion de cette crise. On a perdu trop de temps au début de l'épidémie, explique son porte-parole Alexandre Polak.
On a eu des difficultés à envoyer autant de travailleurs de santé, des docteurs, des médecins européens qu'on voulait. C'est-à-dire on voulait les envoyer, mais il n'y avait pas de système d'évacuation médicale assez performant, je parle dans les premiers jours. Et donc c'est pour ça que nous allons prochainement mettre en place un corps européen médical pour permettre justement de déployer beaucoup plus facilement des travailleurs médico-humanitaires très rapidement dans les jours où il y a une épidémie qui se déblague et pas attendre trop de semaines.
Ce nouveau corps médical européen sera présenté le 15 février prochain.
L'OMS préconise d'autre part des réformes pour réagir cette fois rapidement aux épidémies. Anne Cantener, jeudi.
D'abord, la création d'un réservoir d'équipes médicales pour ne pas revivre la situation du début de l'épidémie d'Ebola. À l'époque, l'OMS avait eu beaucoup de mal à trouver des médecins ayant l'expérience suffisante. Alors aujourd'hui, l'organisation est en train d'établir une liste de personnes sur lesquelles elle peut compter et d'évaluer concrètement les capacités de ces équipes pour être sûre qu'en cas d'urgence sanitaire, elles pourront fournir une réponse extrêmement rapide. Autre réforme, la création d'un fonds d'urgence. L'objectif est de réunir 100 millions de dollars qui seraient disponible en permanence, mais reste à trouver des fonds. Pour l'instant, les contributions atteignent seulement 14 millions de dollars plus 11 millions de promesses de dons. Et l'OMS craint que la mobilisation ne retombe maintenant que l'urgence est passée. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé insiste, il faut continuer de soutenir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria pour qu'ils puissent améliorer leurs services de santé, car la menace n'a pas complètement disparu. Le virus Ebola peut rester présent dans certains liquides du corps comme le sperme pendant plusieurs mois, et tant que ce sera le cas, il existera un risque de nouvelles contaminations en Afrique de l'Ouest.
Notez aussi en Afrique que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont se rendre au Burundi la semaine prochaine pour examiner de plus près la situation politique dans le pays, et que lundi la Cour d'appel de Niamey a rejeté la nouvelle demande de liberté provisoire de l'opposant Ama Amadou en prison pour une affaire de trafic présumé de bébés nigérians. Restons au Niger d'ailleurs, où à cause des conséquences des attaques des terroristes des ex-Boko Haram, désormais organisation de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, près de la moitié des enfants ne vont plus à l'école dans l'est du pays, selon l'UNICEF. Oumarou Gadou, notre correspondant, est allé dans cette région.
Comme beaucoup d'enfants nigériens, Boubé a 14 ans, il n'a jamais mis pied à l'école. Plusieurs raisons expliquent le taux de déscolarisation au Niger. Jusqu'à une date récente, certains villages n'ont pas d'école. Par exemple, Alpha Zazi Issoufou, natif de Simiri, explique pourquoi son premier enfant, le plus grand, a raté sa scolarité.
Au moment où mon enfant avait atteint l'âge de 7 ans requis pour être inscrit, il n'y avait pas d'école dans notre village. L'école la plus proche est située à plus de 10 km. À pied, ce n'est pas facile de l'amener et le ramener chaque jour, matin et soir. Et dites-vous bien que mon enfant n'était pas le seul à être dans une telle situation.
Certains enfants sont obligés, eux, d'abandonner les bancs pour suivre leur famille qui fuit les crises alimentaires et les famines. Abdourahmane Issa, père de 5 enfants.
Aucun d'entre eux n'est allé à l'école. La raison est toute simple. Avec les crises alimentaires à répétition, c'est toute la famille qui doit bouger, y compris les enfants. Vous savez, le ventre vide, les enfants ne pourront pas comprendre grand-chose. D'ailleurs, une fois, un enseignant m'a fait une confidence. Il disait, vos enfants seraient très intelligents s'il n'y avait pas ces crises alimentaires récurrentes.
Dans les zones désertiques, c'est grâce aux cantines scolaires que les élèves sont maintenus à l'école.
Dans le même esprit, Jean Bienbaume, j'ai voulu que nous écoutions un reportage en particulier. Il a été réalisé par notre correspondant à Dakar, Guillaume Thibault, à l'université Cheikh Anta Diop. Il est allé, Guillaume Thibault, à la rencontre des étudiants 6 mois après la visite du président sénégalais, Macky Sall, qui avait été accueilli alors par des jets de pierre. Les étudiants ont demandé une amélioration de leurs conditions de vie.
Ok, bienvenue, faites comme chez vous.
Deux matelas, un vieil ordinateur qui chauffe, un petit lavabo où s'entassent les brosses à dents. Voilà le lieu de vie de Saliou et de ses 4 colocataires.
C'est ça, la chambre est là, composée de 2 lits, une table, entre guillemets, 10 mètres carrés, des fois où on peut habiter à 5 ou plus, voilà.
Au fond du couloir, le bloc sanitaire, l'eau soigne sur les murs. Karim sort de l'une des 3 douches en fonctionnement.
Ça va pas, parce que c'est gâté, c'est ancien. Mais à part ça, bon, vivre ici dans la convivialité, tout est en ordre, quoi.
Le bâtiment d'en face, c'est celui des filles. Les chambres y sont plus grandes, mais elles sont là aussi bien remplies.
Il faut changer les conditions de vie. Même pour ça, j'ai un téléphone, ça pose problème. Il y a une seule prise qui marche ici dans la chambre.
Ah, il faut s'abattre. On ne dort pas bien, franchement. Il y a 3 lits, mais on est 14 dans la chambre. Vous voyez que c'est dur.
Si le président Macky Sall était devant vous, qu'est-ce que vous pourriez lui demander?
Ce que je veux, moi, c'est de payer les bourses à temps.
Il ne faut pas parler, juste. Il faut changer les conditions, concrètement.
Inch'Allah, ça ira.
Des conditions difficiles, mais à la nuit tombée, tous ces étudiants ne pensent qu'à une seule chose, travailler.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. L'Association de la presse diplomatique en France a remis un prix ce lundi à notre confrère Esdras Dikoumana. Le journaliste burundais qui vit actuellement en exil au Kenya a en effet été récompensé pour sa couverture de la crise au Burundi en tant que correspondant de RFI et de l'agence France Presse, l'AFP. Vous avez été plusieurs à le saluer sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Merci donc notamment à Garance, à Abdou à Dakar, à Elvis au Cameroun, à Imran à Bamako et à Waris à Cotonou.
une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre émission, nous allons la conclure déjà avec vous, Jean Birnbaum. Dans la conclusion de votre livre Renouer, qui s'intitule Renouer avec la pensée critique, qui est déjà tout un programme, vous écrivez ceci: dès que la mécanique révolutionnaire est bloquée, la machine spirituelle se remet en marche et tourne à plein régime, la croyance reprend alors son autonomie, mieux ses automatismes.
Oui, il y a une sorte. On y est, oui, on y est, effectivement. Il y a, d'ailleurs, l'émission a très bien, quand même, quelque part, il y a eu en permanence ce va-et-vient, là, les conditions matérielles à l'université, tout à l'heure, Goodyear, et puis en même temps, l'Indonésie. Enfin, on a eu ce va-et-vient entre la question sociale et la question, en tout cas, du djihadisme, et donc d'une forme de prise en otage du religieux dans ses formes les plus perverties et sanglantes. Et c'est vrai que moi, je dis pas du tout, la thèse de ce livre est pas du tout qu'il faut évacuer les questions sociales, matérielles, politiques, mais qu'il faut aussi prendre en compte le religieux. Et donc renouer pour la gauche, renouer avec sa tradition critique, ça veut simplement dire renouer avec des idées, des penseurs, des conceptions qui tenaient les deux, qui arrivaient à donner une place au religieux, qui comprenait qu'on pouvait pas penser le politique ou le social en évacuant complètement le religieux, surtout aujourd'hui. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la guerre d'Espagne, regardez cette puissance d'aimantation, le fait qu'aujourd'hui la seule cause pour laquelle des jeunes sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, ça soit le djihadisme, le fait que ce jeune là à Marseille qui se jette sur un enseignant juif qui il se réclame de Daesh, alors on va dire mais quel lien il a avec, mais en tout cas il y a cette puissance d'aimantation qui fait que cette cause là ça n'est pas un particularisme contre un communisme, vous voyez, c'est un universalisme, c'est une cause qui se réclame de l'universel aussi, c'est un universalisme sanglant, violent, mais qui est aussi un universalisme. Et ce qui est fou, c'est que à gauche, il y a beaucoup de mal à comprendre cela, à prendre au sérieux cela. J'ai tout un chapitre aussi dans ce livre sur la candidature, vous savez, d'une jeune femme voilée au nouveau parti capitaliste d'Olivier Besancenot. Ouais, ouais. Ça a l'air anecdotique, mais c'est très intéressant parce que dans le débat très compliqué et très beau finalement qu'il y a eu à l'intérieur de cette organisation d'extrême gauche, eh bien, on peut voir en regardant le débat, ce qui s'y est dit, la façon dont les militants se sont déchirés sur cette question. Et d'ailleurs, le parti est largement mort de cet épisode, eh bien, que finalement, des gens ont fini par dire, mais ce qui est fou, c'est que nous autres, militants de gauche ou d'extrême gauche, on a fini par considérer qu'un signe ne signifie rien, qu'un voile, ça ne signifie rien, que rien ne signifie rien. Donc, il y a une espèce de, au-delà du religieux, de sécheresse dans le rapport au symbolique. Moi, je pense qu'effectivement, le symbolique, ça n'est pas rien, c'est même, il y a rien de plus réel et de plus efficace que le symbolique.
Et cette relation avec, entre la gauche et la religion ne va pas s'arranger, Jean Birnbaum, au moment où la gauche s'interroge sur son identité, d'ailleurs.
Bah, je ne sais pas, ça j'en sais rien. On verra bien comment elle fait pour s'interroger sur son identité. Peut-être que c'est au contraire un moment comme ça, un moment de doute, Dieu vous entende, que la gauche peut renouer avec sa tradition critique, notamment dans son rapport au religieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la gauche se remette à croire en Dieu, ça veut juste dire qu'il faut qu'elle comprenne que ça, la foi, ça n'est pas rien. Voilà.
Merci Jean Birnbaum, et j'espère que votre livre qui s'intitule Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, publié au Seuil, contribuera à réveiller en quelque sorte la gauche. Merci,
merci beaucoup à vous, merci
cette émission. Une semaine d'actualité réalisée bien évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, chaque dimanche à 16h10 temps universel, 17h10 heure de Paris. Nous parlerons de l'économiste Keynes avec l'anthropologue et économiste Paul Jorion, une émission que vous pouvez, comme celle-ci d'ailleurs, retrouver sur Facebook et podcasté sur le site de RFI. On se quitte avec un hommage à David Bowie qui nous a quitté lundi. Hommage avec une chanson peu connue, choisie par Vanessa Rovensky. Un morceau qui date de 1973, Lady Grinning Soul, de l'album Aladdin Sane. Mais écoutons d'abord l'artiste parler de son statut de pop star. C'était en 1999 sur France Inter. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Non, moi j'aime bien cette définition. C'est comme vous me voyez qui compte. Et un artiste, c'est véritablement un artiste, quelqu'un qui est vu à travers le plus grand nombre, et c'est ça qu'on est. Et c'est quoi le mot important? C'est pop ou star? Moi j'aime la musique populaire et je suppose que mon pop est le plus important pour moi. C'est la vraie qualité, c'est ma vie ça. Et c'est ce que j'écris, c'est beaucoup plus que tout le reste, c'est plus que même d'être sur scène. J'aime beaucoup être sur scène, mais mon cœur est vraiment dans l'écriture. She'll come.